Bonjour! Oh putain! Oh bah ça commence bien. Bonjour tout le monde! C'est marrant, je viens de voir que tu apparais dans la catégorie histoire sur le Wikipédia français de Twitch. Hein? Histoire de quoi? Histoire des temps présents. Tiens, la chemise, t'avais rendez-vous aujourd'hui. Oui! En plus! Bonsoir monsieur, ça va pas être possible. Votre licence de stream a été révoquée pour votre soutien à la propagande macroniste. Et regarde ses notes, port de chemise pas très prolétarienne. C'est Twitter qui l'a dit. Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Oh là là! Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai fait des bêtises sur Twitter. En plus, je suis salé. C'est Elon Musk là! Il me tend ce con! Non mais. J'ai voulu éviter de faire mon tweet du matin. Vous savez, le tweet salé là. Quand je suis pas réveillé, pas caféiné, la tête dans le cul, m'énerve! Et que voilà. Et du coup, j'ai fait un tweet. Parce que ce matin, j'ai regardé du coup l'émission Le Papotin. Avec l'invité Emmanuel Macron. Et j'ai bien aimé l'émission, je l'ai trouvée bien amenée, je l'ai trouvée bien faite, extrêmement bien réalisée. Et puis en plus, j'ai eu le plaisir de découvrir que c'était Henri Poulain qui l'avait réalisée. J'ai toujours beaucoup aimé le travail d'Henri Poulain, qui est un très bon réalisateur. Je l'avais rencontré à l'époque de la création de Le Média. On partageait nos locaux à l'époque avec Le Média. Et Henri Poulain était tout le temps là, parce que c'est lui qui avait lancé le truc du point de vue réel. Et donc voilà, bref, il fait data gueule, etc. C'est vraiment un mec chouette, Henri Poulain. Et bref. J'ai dit que je trouvais cette émission bien. Voilà. J'ai déconné. Non, mais j'ai déconné. T'avais mis 19h dans le planning Twitter. Ça fout en l'air notre planning visionnage que tu sens en avance. Je sais, je suis désolé, j'ai avancé ce stream d'une heure. Je tiens à présenter mes excuses les plus plates. Désolé, mais enfin, j'ai une journée bordélique, c'est compliqué, j'ai dû décaler des trucs, machin. Désolé, il dit qu'il est désolé. Je me demande avec les papotins, les questions viennent vraiment des personnes atteintes d'autisme parce que j'ai l'impression que certains viennent de la prod autour. Alors, je ne sais pas, déjà. Ce que je crois avoir compris de la fabrication de l'émission, c'est que Le Papotin est un journal qui existe depuis 30 ans. Qui est un excellent journal qui est réalisé par des personnes neuroatypiques. Neuroatypique étant un mot technique pour désigner toutes les personnes qui ne sont pas, ou des personnes qui sont, ou qui souffrent, ou qui voilà, sont sur le spectre de l'autisme, qui, comme vous le savez, est un sujet, enfin, quelque chose qui regroupe beaucoup de variétés différentes, qui réalise un journal papier dans lequel ils ont l'habitude de réaliser des entretiens avec des célébrités, des gens de la chanson, des gens de machin et tout. Là, ils ont fait une émission avec Emmanuel Macron, et il se trouve que je pense, mais je ne sais pas, je pense qu'ils ont préparé l'émission en rédaction. Ils se sont réunis avant avec les gens de la rédaction du Papotin, et ils ont travaillé ensemble. Quelles sont les questions que vous voulez poser au président? Et je crois vraiment que ils ont posé leurs questions. D'ailleurs, c'est à un moment le présentateur de l'émission dit à Emmanuel Macron. Les gens du Papotin avaient beaucoup de questions à vous poser sur Elisabeth, sur pas Elisabeth, merde, la femme du président, Caroline, Fatima, Isabelle, Brigitte, merci, Brigitte Macron. Et ils avaient plein de questions à lui poser sur Brigitte Macron. Ils ont posé plein de questions sur Brigitte Macron. Voilà. Donc est-ce que c'était préparé par la prod? Je pense vraiment pas. Est-ce que c'était préparé par le Papotin? Oui, mais comme d'habitude, ils font leurs interviews. Ils préparent leurs interviews ensemble, en rédaction, collectivement. Ils écrivent leurs questions, etc. Voilà. Perso, après avoir vu le Papotin avec Macron, je suis pour la réforme des retraites. Ah ouais, t'as vu, il est vachement humain quand même. Ah, ça l'a rendu sympathique. Ça change tout. Donc voilà. Donc j'ai déconné. Hein. J'ai déconné. J'ai dit du bien d'une émission dans laquelle il y a Emmanuel Macron. Alors que j'aurais dit en, alors que j'aurais dû en. Je sais pas. Ne rien en dire. Il peut être sympathique sans qu'on soit d'accord avec lui non plus. Ah, visiblement non. D'après ce que j'ai compris. Pourquoi ne pas faire de sponsor pour financer Baxit? Mais comment tu crois qu'il n'y aura pas de sponsor? Bien sûr qu'il y en aura, j'espère. On y travaille. Ça a vraiment amené la sauce. Non mais ça n'a pas amené la sauce. Ça a amené des réactions outrées. C'est normal. De la part de plein de gens qui visiblement m'en ont voulu de pas avoir dit que c'était un exercice de communication politique et de propagande. Ce qui pour moi allait quand même assez de soi, mais visiblement il... Voilà. J'ai du mal à comprendre le on de ton tweet. Ah, le on, c'était nous, Twitter. Il y a eu un extrait du papotin qui a été publié sur Twitter par France 2 avant l'émission, dans lequel on voyait un homme autiste poser une question à Emmanuel Macron sur sa relation avec Brigitte. Et hors de tout contexte, c'est vrai que ça a fait marrer beaucoup de monde en mode What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et moi le premier, hein, j'ai vu ça, j'étais en mode Mais c'est que ces conneries, c'est quoi cette émission? J'étais au courant de rien, comme tout le monde et tout. Et bah finalement, j'ai vu l'émission et je me suis dit Ah ouais, en fait, ouais. Ah non, franchement, chapeau le papotin, chapeau la prod. Pas particulièrement chapeau Macron, d'ailleurs, je m'en branle. Donc. Donc voilà, donc oui, non, mais ça repose la question, encore une fois, toujours pareil, de la communication politique, de la propagande. Pareil, le mot propagande est. Enfin, le mot propagande a une définition légale, hein, ce qu'on appelle la propagande électorale, c'est écrit dans la loi, c'est l'ensemble des documents, des affiches et des opérations pendant les campagnes électorales par lesquelles les candidats font connaître leur candidature aux électeurs. Ça s'appelle la propagande, c'est un mot juridique, machin. Bon, sauf que le mot propagande dans l'espace public a une connotation particulière autour de la communication de régime autoritaire vis-à-vis d'une population pour. Évidemment, ça renvoie au totalitarisme du XXe siècle, etc. Donc, on a toujours tendance, et c'est normal, à parler de propagande de la part d'un gouvernement avec lequel on est en désaccord et à trouver que tout est de l'ordre de la propagande. Ce qui n'est pas forcément faux, enfin, c'est une question de point de vue. Le fait est que. La communication politique fait partie de la politique. Enfin, vous me connaissez, moi j'ai toujours défendu la même idée qui est de dire n'en voulons pas aux politiques d'essayer de nous parler. Soyons pas dupes, soyons pas cons. Oui, les politiques essayent de renvoyer d'eux-mêmes une image sympathique. Oui, les politiques préfèrent éviter les interviews chiantes où on leur pose des questions dérangeantes. Oui, les politiques essayent de nous convaincre. Ouais, et ça a toujours été comme ça. Et ça le sera toujours. Et c'est pas grave, et c'est même pas forcément toujours malsain, et ça fait partie du truc, et ça doit pas nous empêcher de faire la part des choses. Enfin, moi en tout cas, ce qui me concerne, moi ça m'empêche pas de le faire. J'ai l'impression que ça empêche pas grand monde hein, de faire la part des choses, de ce que je vois et de ce que je lis, personne n'est dupe. voilà. Ouais, non, mais c'est ça, personne tombe dans le panneau. Je trouve que les gens ont un avis ont un avis très acéré sur la com' politique. Voilà, je veux dire, la politique a tellement mauvaise presse dans l'opinion publique que dès qu'un politique prend la parole avec une caméra devant sa tronche, t'auras toujours des gens pour hurler en disant Ah, c'est de la com! Bah oui, c'est de la com. Oui, c'est de la com. Ouais, bien vu. Bravo, Sherlock. Prends-le pour ce que c'est. Un exercice de com. Prends-en ce que t'as à en prendre. Garde ton esprit critique. Faisons-le tout le temps. Très bien. Personne ne tombe dans le panneau, les résultats des élections depuis 30 ans montrent l'inverse. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc sur lequel je pense qu'on peut être en désaccord, mais c'est pas grave. Et encore une fois, c'est très bien d'être en désaccord, j'ai pas de problème avec ça. Justement, les personnes qui ne pensent pas comme moi ne sont pas nécessairement des abrutis, manipulés, des moutons qui se font avoir par des exercices de com. Non, je vois pas pourquoi je prêterais aux autres une bêtise. Que je n'aurais pas moi, parce que moi, du haut de mes convictions, par définition meilleures que celles des autres, je serais au-dessus du lot. Non, en fait, les gens ne sont pas débiles. Il y a peut-être même des gens qui ne pensent pas de la même manière que moi, pour très bonnes raisons, avec beaucoup de sincérité, et peut-être même avec nuance, et recul critique sur eux-mêmes et sur leurs opinions. Voilà. Et ça, c'est pareil, je me méfie toujours du côté. J'essaye toujours de me méfier du côté. Quand c'est les gens avec qui je suis pas d'accord, c'est de la vilaine communication politique et de la propagande. Par contre, quand c'est des gens qui sont d'accord, c'est une excellente interview dans laquelle la personne avec qui je suis d'accord fait preuve de beaucoup de pédagogie et d'argumentation. D'ailleurs, les méchants journalistes, en essayant de le piéger, montrent leur inféodation, leur inféodalisme, je sais pas, au pouvoir. Non. C'est de la stratégie. Mais c'est toujours de la stratégie. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, encore une fois. Ne faisons pas l'erreur de croire que les gens n'essayent pas de nous montrer leur meilleur visage. Évidemment. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Non, mais je sais que vous le croyez pas en plus. Mais je sais pas, vous attendez quoi? Qu'un politique qui vienne devant une caméra et il dise, mes opinions sont à chier, je suis une personne médiocre. Ce que je propose est nul, les autres en face ont raison. Non, enfin, personne n'a jamais fait ça et personne ne le fera jamais. Et moi le premier d'ailleurs. Vous croyez que je ne vous montre pas mon meilleur visage en permanence? Évidemment, je vous montre mon... Enfin, même sans le vouloir, je ne pourrais pas m'empêcher voilà, je sais pas, Donc voilà, et en démocratie, encore une fois, n'en voulons pas aux politiques d'essayer de nous convaincre et d'avoir nos votes. Ils essayent de nous draguer tout le temps. Et ils ont raison d'essayer. Ça marche pas, dommage pour eux. Ça marche, tant mieux pour eux. Mais bon. Le problème, c'est qu'on laisse les politiques faire de la com à tout va. Je pense qu'on ne devrait pas voir le visage des politiques, faire une politique la plus neutre possible. Je vais avoir tendance à considérer, même si je comprends ton point de vue, je vais avoir tendance à considérer qu'une politique neutre, c'est une antithèse absolue. Non, aucune politique n'est neutre. Tant mieux d'ailleurs. C'est le contraire de la neutralité, l'action publique. Très bien, très bien. C'est peut-être même sa noblesse à la politique de ne pas être neutre. C'est un ensemble de décisions qui vont dans un sens, avec un cap, ou pas toujours d'ailleurs, parfois c'est le bordel. Je trouve perso qu'inviter des politiques dans des émissions où on leur pose des questions perso sur leur vie hors politique, ça tend à renforcer la personnification. Qui, de mon point de vue, est déjà trop poussé dans la politique actuelle. Je peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. À titre personnel, je partage avec toi une forme de rejet ou d'intranquillité vis-à-vis de la personnification politique. Je ne suis pas un grand fan de la Ve République, cette personnification et tout. J'ai beaucoup de critiques à lui faire. Et je trouve intéressant et questionnable l'idée qu'à l'inverse, les politiques devraient être d'une manière ou d'une autre réservée à des interviews 100% politiques où on ne s'interrogerait pas sur qui ils sont, d'où ils viennent, quel a été le fruit de leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés. Je serais très emmerdé si on n'avait que ça de la personnification. D'ailleurs, j'en veux à Macron d'avoir refusé des interviews sur France 2 pendant la campagne présidentielle. Je trouve ça naze. Je trouve que c'était une fuite. Il s'est planqué. Je souhaite que le président de la République accepte des exercices de conférences de presse, d'interviews, etc. Et je trouve qu'il ne le fait pas assez, Emmanuel Macron, pour le coup. Donc, mais est-ce que pour autant, ayons l'honnêteté de reconnaître que c'est pas la seule chose qu'on a dans l'offre politique. On a des interviews politiques dans toutes les matinales de radio, on a des interviews politiques dans les colonnes des journaux, on a des émissions politiques, on a des... Bon, si on veut entendre de la politique, on peut en entendre. Peut-être pas suffisamment, peut-être pas avec assez d'indépendance, je suis d'accord, je suis pas en train de vous dire que notre paysage politique est parfait, qu'il est indépendant. Non, 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 il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, encore une fois, je m'interroge sur... Vous savez, moi, rappelez-vous quand Magali Berda avait interviewé des politiques pendant la campagne et tout, bon, elle en a fait que deux finalement, mais... Beaucoup de gens m'avaient interviewé en me demandant qu'est-ce que t'en penses, est-ce que les influenceurs, machin, est-ce que c'est pas plutôt le boulot des journalistes d'interviewer des politiques? J'avais envie de dire oui. Et en même temps, je suis le premier à dire, moi, je veux pas que les politiques soient réservées à des gens comme moi, à des intervieweurs politiques. Au contraire, je souhaite que les politiques soient accessibles, qu'ils aient l'opportunité de répondre à des questions qui leur sont posées par des gens dont c'est pas le métier, dont c'est pas la spécialité. Pourquoi pas? Et encore une fois, s'ils ne faisaient que ça, ça m'emmerderait beaucoup. Donc, c'était Zelensky qui avait été élu président de l'Ukraine de cette manière-là. Il avait refusé toutes les interviews. Il avait fait une seule conférence de presse de toute sa campagne. Moi, je trouve ça très moyen. Très, très moyen. Il communiquait que sur les réseaux sociaux, que sur Facebook notamment. Bon. Suis pas fan. Macron à la présidentielle 2022, c'était pas ouf. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et encore une fois, ce n'est pas antinomique avec le fait de trouver que l'émission de France 2 avec les papotins était plutôt une bonne émission, bien amenée, bien faite. Voilà, indépendamment de la personnalité d'Emmanuel Macron, dont je me fous pas mal dans le contexte. C'était bien produit, mais ça n'avait pas lieu d'être. Ça aura jamais lieu d'être. Tu m'accorderas que... Enfin, tu vois, c'est le drame de l'exercice du pouvoir, c'est que c'est jamais le moment. Donc... Mais c'est pour ça que moi je vous ai toujours dit, je n'en veux pas à Emmanuel Macron d'avoir fait une vidéo avec ma fille Carlito, je m'en fous pas mal. Je lui en veux par contre de ne pas avoir fait aussi des vidéos avec d'autres influenceurs pour parler de politique. Je parle pour ma pomme avec Baxit, je parle pour ma pomme avec le débat du siècle, je parle aussi pour la pomme de Hugo Décrypte. Voilà, je trouve ça dommage. Bon, t'es allé faire une vidéo avec McFly et Carlito, la preuve que tu peux faire des vidéos avec des influenceurs sur Internet. Pourquoi tu viens pas répondre à des questions politiques, tu vois, ce... Je trouve ça un peu naze, quoi. Il va pas se mettre en danger face à un public critique. Moi, je l'ai toujours dit, une invitation à une interview, c'est toujours une invitation. Un politique ne nous doit pas d'acceptation de nos invitations. On invite un politique. S'il ne vient pas, c'est parce que pour 1 milliard de raisons, qui sont les siennes, il estime ne pas avoir à venir et que ça lui rapporterait rien. Je trouve ça dommage, je pense le contraire, mais c'est mon point de vue. Après, je suis biaisé, c'est mon émission, donc forcément. Il a surtout parlé à un public pas politisé qui est enclin à accepter des éléments de langage. Encore une fois, je reviens là-dessus, vous n'êtes pas meilleur que les autres, je suis pas meilleur que les autres. Non, les autres, qui que ce soit, ne sont pas des gros cons, manipulés, manipulables. Je refuse de prêter aux autres, espèce de présomption de manipulabilité. Non, je sais pas, je fais confiance aux gens. Tu surestimes beaucoup de gens. Je peux te renvoyer que tu en sous-estimes beaucoup, peut-être aussi, tu vois. Faut faire confiance à Jean. Bah, faut pas me faire confiance plus qu'aux autres, hein. Gardez votre esprit critique, y compris vis-à-vis de ce que je vous dis. Surtout, s'il vous plaît. J'essaye de vous démontrer émission après émission qu'on peut tous avoir des analyses politiques, on peut tous se faire des réflexions sur l'actualité, sur ce que dit machin, sur comment ça se passe et tout. J'espère que quand vous regardez mes streams, vous vous dites oh, je suis pas tout à fait d'accord avec lui là sur cette analyse, je trouve que non, non, au contraire, machin. Enfin, j'espère que vous vous dites ça, j'espère que vous le dites dans le chat. Soyez en désaccord avec moi, j'ai aucun problème, au contraire, je suis même plutôt content. Je vous ai toujours dit, moi je veux pas être un gourou à la tête d'une communauté acquise à mes idées, ça n'a aucune envie. M'en fous. Je vous préfère comme vous êtes et je vous trouve au contraire plutôt acéré. Je suis pas tout à fait d'accord avec tes réglages sur Flight Simulator. Ah non, là par contre j'ai raison. Hein. Vous possédez pas la vérité, tout le monde peut se sentir réaliste, vrai et lucide à 100%, avec toutes les bonnes solutions. C'est pas faux de penser de ça, parce qu'en face, ils peuvent penser la même chose. Ouais, non, mais c'est ce que je disais. Il y a des gens qui pensent pas de la même manière que moi, et pour des raisons qui leur paraissent bonnes. On appelle ça une opinion, et voilà. Et après, charge à chacun d'accepter ou de refuser des opinions, d'en considérer certaines comme acceptables ou non. Vous me connaissez, j'ai des limites. Non, toutes les opinions ne se valent pas, je refuse ça. Ce qui me vaut beaucoup d'emmerdes, mais enfin bon, c'est ma croix et ma bannière. Hein. C'est pas que j'ai raison, c'est qu'ils ont toujours tort. C'est Macron et ma bannière. Non, ma croix et ma... Attention, genre, les opinions, c'est dangereux sur Twitter. Pour moi aussi, toutes les opinions ne se valent pas, la mienne est la meilleure. Et encore une fois, là aussi, mon relativisme ne doit pas être pris comme une minoration des opinions en disant la vôtre est pas meilleure que les autres. Évidemment que la vôtre est meilleure que les autres, puisque c'est la vôtre. Quel est le fruit de votre expérience, de votre parcours, de vos lectures, de vos amitiés, de vos... Très bien, chérissez-les, vos opinions, nourrissez-les, faites-les évoluer peut-être ou pas. Je sais pas s'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, je suis peut-être pas d'accord, hein. Il y a des gens qui changent pas d'opinion. Moi, j'ai jamais aimé l'homophobie. Je pense pas être un imbécile en ne changeant pas d'opinion sur ce point, mais bah, c'est mon point de vue. En tant qu'anarchiste, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais je respecte à 100% tant qu'il n'y a pas de discrimination, racisme, etc. Ouais. Non, mais en plus, l'anarchisme fait partie des traditions politiques dans laquelle il y a une recherche de la dialectique. C'est ce que j'ai toujours beaucoup aimé chez les trotskistes, les marxistes, les anarchistes, c'est qu'il y a une réflexion poussée à un point qui parfois confine à l'absurde, peut-être, mais tu peux pas retirer. À cette histoire-là de la gauche, sa recherche permanente de l'amélioration. Comment on peut faire comprendre que certaines choses ne relèvent pas des opinions mais de la science? Et ça, tu as raison, c'est tout le sujet de qu'est-ce qui relève de la vérité et qu'est-ce qui relève de l'opinion. Moi, j'ai toujours dit que justement, la politique en démocratie, virgule, la politique et le débat public, ne tient pas tant de la vérité que du point de vue. Face aux mêmes faits, face aux mêmes graphes, face à la même réalité, on peut avoir des approches différentes, des clés de lecture différentes qui nous amènent à des propositions, à des caps politiques différents. J'ai un problème dès lors qu'on en vient à nier la réalité. Si tu construis une opinion sur des réalités fausses, Oh, pas les... Voilà, ça part mal. Mais de là à dire qu'il existe des politiques publiques qui relèvent de l'évidence et de la vérité scientifique, j'ai du mal. Pour moi, une politique publique relève toujours d'un choix politique. Et c'est un choix. Charge à elle de s'accommoder au mieux de la réalité. Mais j'ai beaucoup de mal avec... Même l'éducation obligatoire. Mais l'éducation obligatoire, l'histoire de l'éducation populaire, c'est l'histoire d'un choix politique. C'est absolument pas neutre. Le fait de créer des écoles publiques, gratuites, obligatoires, laïques et tout. Au contraire, c'est très politique. C'est un projet républicain, etc. Mais c'est le projet de l'éducation populaire, quoi. C'est comme les retraites. Et les retraites, c'est un très bon exemple. Les retraites, c'est un excellent exemple. Si vous lisez le rapport du Conseil d'orientation des retraites, Il est très intéressant ce rapport. Le rapport commence par plusieurs pages de mise en garde en vous disant attention, il n'y a rien d'absolument vrai et d'éternellement vrai dans le sujet, il n'y a que des paramètres et tout est affaire de choix. Donc les gens qui vous disent il faut sauver notre système de retraite parce qu'il va mourir si on ne fait pas la politique que moi je propose, à mon avis, déforment la réalité. Vous font croire que leur politique est la seule et il n'y a pas d'alternative. Ça tombe de l'évidence. Non, ça tombe d'un choix politique. Et vous en faites un, et tant mieux. Présentez-le-nous, argumentez-le, expliquez-nous. Mais c'est un choix politique. Peut-être d'autres manières d'envisager les choses et tout, qui sont peut-être pas plus acceptables, mais attention. Ouais, les retraites, c'est un très bon exemple. Mais vous savez, c'est intéressant parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique à partir du milieu des années 2000. On était encore un peu dans la vague des années 90, la chute du mur de Berlin, la victoire du capitalisme financiarisé, etc. Moi, je me souviens d'une époque où il y avait des économistes qui venaient à la télé expliquer aux gens que la politique, que l'économie, pardon, l'économie, c'est une mécanique qui marche d'une certaine manière et pas d'une autre. Et qu'il faut la laisser tourner au mieux. Et ça, c'est la science qui le dit. C'est mathématique. C'est absolument vrai de toute éternité que le libéralisme, en l'occurrence, c'était le libéralisme, le néolibéralisme et tout, était la meilleure des politiques publiques. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Bon, la crise de 2008 est venue foutre un sacré coup dans la fourmilière de ce truc-là en disant, alors en fait, là aussi, il y a des choix. Là aussi, il y a des décisions. Rien n'est neutre. On peut en discuter, en fait. L'époque Fukuyama. Mais oui, c'est ça, la fin de l'histoire. Fukuyama, voilà, qui a théorisé la fin de l'histoire. Après la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'histoire. C'est fini. On a fini le jeu. On est arrivé au système, donc le capitalisme globalisé. Ça va être comme ça à partir de maintenant. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'évolution possible et tout termine. Bon, voilà, la crise de 2008, plus le Covid, plus plein d'autres trucs et tout, sont quand même venus réatterrir tout le monde en disant, alors en fait, vous êtes gentils les économistes qui nous avaient expliqué que c'était comme ça que ça marchait et que c'était mieux et tout. En fait, on a aussi des choix à faire, on a aussi des discussions à avoir. Le changement climatique, je vous en parle même pas, est venu là aussi foutre un coup de pied en disant, bah en fait, peut-être que les camions et les bateaux là qui traversent le monde pour nous amener des trucs, c'est peut-être pas un modèle durable en fait. Et que c'est une question de point de vue, là encore une fois, de qu'est-ce qu'on priorise, comment on voit les choses et tout. Et la crise énergétique en est un très bon exemple. Très bon exemple aussi, la crise énergétique, très bon exemple. Il y a des choix, certains choix qui ont été faits par le passé, certains choix qui sont à faire aujourd'hui. Et deux personnes peuvent avoir raison en n'étant pas d'accord. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Un mec qui dit le nucléaire garantit notre indépendance en approvisionnement électrique peut avoir raison, et un autre qui dit que tout basé sur le nucléaire, etc., c'est aussi un danger qui nous rend dépendants d'approvisionnement. Il a raison aussi. Tiens, c'est marrant, les deux sont vrais. Ah bah c'est emmerdant. Faut se faire une opinion. Ouais, c'est pas facile. Même le forum de Davos est d'accord sur la remise en cause du système économique mondial. Mais oui, non, mais voilà, enfin, tant mieux. Peut-être qu'on a progressé en tant qu'humanité. Bon, il a fallu qu'on se prenne un mur. Tu me diras, finalement, est-ce que c'est pas ça le moteur de l'histoire? Des échecs successifs et la volonté que ça n'arrive plus jamais. Comment arrives-tu à toujours t'inscrire dans une culture du compromis alors que l'ensemble de la nation se rue à sa perte? C'est ton point de vue? J'en reviens encore une fois. Souffrez qu'il existe des gens qui ne partagent pas vos points de vue et qui n'ont ni raison ni tort, qui ont juste une expérience de vie différente. Et nos opinions ont toutes le même statut. Elles sont nos opinions. Elles sont toutes le fruit de notre parcours de vie, de notre éducation, de notre milieu social et de notre classe sociale. De notre pays aussi, de son histoire, de nos amitiés, de nos lectures, de nos influences. C'est comme ça que là aussi, tu vois, parfois il y a des dialectiques qui me font marrer, les gens qui disent, ouais, enfin, si t'avais lu les mêmes livres que moi, t'en viendrais à la même conclusion. Bah évidemment. Oui. Oui, si j'étais toi, si j'avais grandi comme toi, eu le même parcours de vie que toi, oui, je penserais comme toi. Bah oui, évidemment. Mais justement, je ne suis pas. Enfin, voilà, j'ai un autre point de vue que le tien. Et bon. Et encore une fois, je mets quand même de la nuance dans ce que je suis en train de dire en disant que je refuse de mettre un signe égal entre toutes les opinions et toutes les écoles de pensée. Je m'y refuse. Voilà. Et c'est pas neutre. Et je n'ai jamais été neutre et je le serai jamais. Je me suis jamais prétendu ni neutre, ni objectif, ni quoi que ce soit. Mais. Les matérialistes ont une lecture de l'histoire basée sur la satisfaction des besoins matériels des acteurs, là où l'extrême droite va avoir une clé de lecture ethno-culturelle ou ethno-racialiste même du monde, et va adhérer à des thèses, l'impossibilité de l'assimilation, du métissage. Le choc des civilisations, etc. Bon, bah, moi, je suis en désaccord et je refuse d'accorder la même valeur à cette école de pensée-là. Je constate qu'elle existe et je l'analyse et je la lis, etc. Mais non, je suis désolé, là, ça franchit une barrière, qui est la mienne. Après, c'est pas que l'environnement qui construit nos opinions, il y a aussi notre propre manière de raisonner qui est innée. Peut-être. Ou peut-être pas, mais ça change rien au propos. Oui, non, peut-être. Le fait est qu'on a des opinions différentes. Tu vois. C'est pourtant simple, droite égale méchant, gauche égale gentil. Comme avait dit mon père un jour, il n'y a pas de gauche et de droite. Il y a les gens qui ont compris comment marchait l'économie et ceux qui n'ont rien compris. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Donc voilà, je reviens à cette idée-là. Quand vous mettez un bulletin dans une urne, vous ne faites pas œuvre de vérité, vous ne faites pas œuvre de savoir, vous n'affirmez pas une connaissance, vous émettez une opinion. Vous n'avez pas raison, vous n'avez pas tort non plus, vous avez opinion, c'est pas la même chose. On fait œuvre de conviction. Oui, ou de conviction, oui. Et c'est très bien les convictions. Conviction, ça se forge aussi en tenant pour vrai un certain nombre d'affirmations ou d'axiomes, appelez ça comme vous voulez. Mais tenir pour vrai, ça veut dire émettre un choix. Mais c'est très bien. Heureusement qu'on tient tous pour vrai un certain nombre de choses. Donc si j'ai bien compris, si t'es pas d'accord avec moi, tu as tort. Oui, c'est ça. Après, il y a les opinions et les faits. Exactement, et j'en reviens à ça. Moi, je suis plus inquiet quand je vois l'évolution du Trumpisme aux États-Unis et tout. Je suis plus inquiet par la négation du réel que par les divergences d'opinion. Là, ça m'emmerde. Alors, quand des politiques se pointent à la télé en niant les chiffres, la vérité, etc. Là, ça m'emmerde. En disant non, c'est faux. Bah, en fait, les chiffres, là pour le coup, le réel ment pas. Hein. Je trouve qu'en France, on est encore un peu préservé de ça. Bon, évidemment, il y a les complotistes, les antivax et tout, ils existent, hein, voilà, ils ne représentent pas personne non plus. Mais je veux dire, en France, on a l'INSEE, par exemple, l'INSEE, l'Institut national de la statistique. L'INSEE, je n'ai jamais entendu un politique remettre en cause l'INSEE. Tant mieux. Parce que pour le coup, c'est difficile. Enfin voilà, l'INSEE, c'est l'INSEE. Les mecs, ils appartiennent à aucune école de pensée, ils te produisent des tableurs Excel. Tu peux, enfin, voilà. On peut discuter des chiffres en discutant les causes et les conséquences et les méthodes de calcul. Discutons toujours, mais on ne remet pas en cause le chiffre final, tu vois. Voilà. Ah, en revanche, j'ai entendu des anti-vax m'expliquer que l'Institut Pasteur était inféodé au labo. Alors là, t'es en mode, écoute, mec, enfin, je. Non. C'est très très mal connaître l'Institut Pasteur de le croire inféodé à qui que ce soit. C'est pas un labo pharmaceutique, c'est pas une entreprise capitaliste. Hein, ça marche pas comme ça. On peut discuter si tu veux de Big Pharma et tout. Voilà. Mais l'Institut Pasteur, quoi, je veux dire, c'est des mecs avec des pipettes depuis un siècle qui étudient les virus. Il y a un moment, ça va, quoi. Je veux dire, les mecs, ils font un séquençage du génome du virus. On va pas remettre en cause le séquençage. Enfin, tu vois. Bon, il y a un moment, le réel, il est là, quoi. Le virus, il existe, il se transmet. On fait des recherches et tout. Discutons après, mais discutons de la politique du masque, de la politique. On peut en discuter, je ne remets pas en cause ça non plus. Discutons de la politique mise en place et de ses effets, peut-être parfois de ses effets pervers, ses effets de bord et tout. On peut discuter du confinement, on peut discuter du fonds de solidarité et tout, bien sûr. Les politiques critiquent l'INSEE en leur disant que leurs méthodes de calcul ou leurs paramètres sont mauvais. Est-ce que tu vois ça comme la négation du réel? Non. Ah non, j'accepte complètement. Prends par exemple les chiffres du chômage. Chiffres du chômage, le chômage n'est pas une notion absolue. On peut discuter de la manière de calculer le chômage. On prend les catégories A, B, C, on les calcule de la même manière. Celui qui est à mi-temps, celui qui est en formation, celui qui est en apprentissage, on le calcule comment lui? Discutons-en. Donc. Quand le gouvernement dit, regardez, il y a 6 ou 7% de chômage, c'est bien, il a raison, parce qu'il prend les chiffres du chômage, mais quand un opposant leur répond, vous êtes gentil, mais enfin vos chiffres de chômage, ils sont basés sur le fait qu'on écarte beaucoup de chômeurs des calculs, bah, ils ont raison aussi. C'est pas grave. Les radiations et tout, mais discutons-en, bien sûr. Les débats qu'il y a eu au Parlement européen sur la taxonomie verte, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans la taxonomie verte? C'est intéressant. Gaz naturel? Oui, non. Ah, intéressant. L'uranium? Oui, non. Bah, discutons-en. Genre, c'est kiff-kiff. C'est pas kiff-kiff, c'est que c'est une question de point de vue. Tu peux créer des statistiques qui te font dire ce que tu veux. Ouais, bien sûr! Je travaille à l'INSEE et je peux vous dire que l'INSEE écrit toutes les réclamations. Cependant, tous les indices et chiffres sont justifiés et débattus. Bien sûr. Mais je reviens sur le rapport du Conseil d'orientation des retraites que j'ai essayé de lire. Je crois que j'ai lu quasiment jusqu'à la fin, ouais. Pareil, vous verriez la précaution que prend le Conseil d'orientation des retraites dans la présentation de leurs chiffres. Les mecs sont hyper précautionneux, hein. Ils te mettent des trigger warnings à chaque fois en disant, alors attention, hein, on se base bien sur la situation actuelle, ils écrivent noir sur blanc que ça ne dit rien de l'évolution dans 30 ans du système. Ça dépend de tellement de paramètres que, bon, voilà. C'est un peu comme baser des prévisions météo sur la base de la météorologie de cette semaine. Attention, hein, on est dans un contexte politique particulier, avec des choix qui ont été faits, on peut très bien les remettre en cause demain. Voilà, attention. Donc, bon, bah, ils ont raison, ils font leur travail. De toute façon, on ne peut pas prévoir le climat. Alors, si, on ne peut pas prévoir la météo. On peut très bien prévoir le climat. Alors ça, pour le coup, il y a des modèles prévisionnels qui ont montré leur efficacité et leur bon fonctionnement. On ne peut plus vraiment douter de la prévisibilité de l'évolution du climat à moyen et à long terme. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Autant il est impossible de prédire la météo qu'il fera à telle date dans 30 ans. Autant il est parfaitement possible de faire des projections sur les moyennes et les évolutions du climat. Ça, pour le coup, là, ça tombe mal, c'est quand même très très bien connu. C'est même en réalité, moi je suis assez bluffé par la compétence que nos scientifiques ont réussi à acquérir au cours du XXe siècle sur la connaissance de l'évolution du climat, de sa mécanique. Quand on lit les rapports du GIEC. Oh! Le niveau de précision, les mecs prennent en compte des trucs tellement micro sur l'évolution des micro-algues, machin et tout. Ils ont fait des calculs pour prévoir et tout. T'es en mode, ah oui, d'accord, putain, ça va jusque-là. C'est comme Valérie Masson-Delmotte, vous savez, la grande climatologue française, elle est paléoclimatologue. Valérie Masson-Delmotte, elle a fait des études pour montrer les évolutions du climat il y a 3 millions d'années, en démontrant les mécanismes d'évolution du climat à l'époque, à une époque où la faune et la flore étaient très spécifiques et tout. Elle a démontré que. Enfin, t'es en mode, oh vache! Le niveau de précision, ok, bluffant. C'est juste des brutes, les gens qui travaillent au GIEC, c'est une dinguerie. Oui, sachant qu'attention, hein, le GIEC n'est pas en soi un laboratoire de recherche. Le GIEC est un truc qui fait la synthèse des recherches de tous les laboratoires du monde qui travaillent dessus, sur la méthodologie et tout. Donc, enfin, moi, je suis extrêmement bluffé. Quand j'entends des scientifiques me parler de leur domaine de recherche, à chaque fois, je me dis, oh putain. Ah putain, on est allé loin quand même. On est allé très très loin dans la maîtrise de la technique. Nous, on est des saltimbanques à côté. Ah bah c'est... Non, non, mais c'est bluffant, hein. C'est que des brutes de toute façon. Ah non, ils sont très très impressionnants. Au fait, comment est financé le GIEC? Par les Nations Unies. Le GIEC est un groupement qui a été mis en place par des traités internationaux dans le cadre des accords de Kyoto, je crois, à l'époque. Donc les pays membres ont signé, ont ratifié des conventions qui mettent en place, entre autres choses, puisqu'ils mettent en place plein de trucs, mais entre autres choses, ils mettent en place un groupe international d'experts chargé. C'était même avant Kyoto, le GIEC peut-être, ouais. Voilà. Ils ont créé une espèce d'INSEE, un INSEE du climat, en disant bah, eux ils vont bosser, ils vont nous pondre des rapports. Comment ils se répartissent les dépenses entre pays membres? C'est pas les pays qui touchent le pognon, hein. C'est les pays qui financent. Le budget des Nations Unies, qui lui aussi est calculé d'une certaine manière sur les contributions et tout. Bon. Il me semble que les membres sont pas payés. Les membres du GIEC? Je sais pas. Oui, ça doit être des membres de laboratoires qui sont détachés au GIEC pour travailler et tout. Oui, ça m'étonne pas. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. La politique est faite d'hommes et de femmes qui essayent de nous convaincre qu'ils ont des opinions qui sont les bonnes, qu'ils ont des clés de lecture du monde qui sont les bonnes et qu'ils ont des propositions, des solutions qui sont les bonnes. Dont acte. Écoutons-les. Ne faisons pas l'erreur de les prendre pour autre chose que ce qu'ils sont. Des acteurs du débat public qui nous proposent une lecture particulière du truc. Et c'est très bien. Et c'est pas grave. Et gardons une distance critique nous permettant de d'écouter. Ce sont avant tout des vendeurs d'idées. Comme le meilleur, comme pour le pire. Moi, j'ai tendance à voir là-dedans quelque chose de pas malsain. C'est pas malsain en soi que les politiques essayent de me convaincre. Bah, allez-y, essayez, hein, très bien. Je leur reconnais même. Je postule la sincérité des engagements. Ça a toujours été ma manière de faire. Quelqu'un qui s'engage en politique, toujours tendance à croire qu'il le fait parce qu'il est sincère dans sa volonté d'améliorer les choses. Très bien. Bon, de son point de vue, qui peut ne pas être le même que le mien, mais je ne remets pas en cause le fait qu'il essaye, à son échelle et à son niveau et de son point de vue, il essaye de bien faire. Bon, eh ben, vas-y, explique-moi. C'est déjà une opinion que de penser que les gens sont sincères. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te dis que c'est un postulat. Mais moi, je postule, mais c'est mon choix. C'est ma manière à moi de voir les choses. Et on peut être en désaccord. Je connais plein de gens qui postulent le cynisme des politiques. J'en connais plein qui me disent non, mais les politiques sont jamais sincères, les politiques sont toujours dans le calcul, il y a toujours l'embrouille, etc. Bah, écoute, on n'a pas la même approche de l'objet politique. La sincérité au début, mais au bout de 20 ans de panier de crabe, reste-t-il des gens sincères? Ah, ça, je suis d'accord avec toi pour dire que l'exercice de la politique a tendance à effriter la pureté des opinions. Ça, c'est vrai. J'ai grandi dans un environnement social de méfiance, ça m'a pris du temps pour refaire confiance. Ouais. Balkany t'y a cru dès le début. Mais je vous ai déjà dit que Patrick Balkany, indépendamment des affaires, parce que beaucoup de gens le connaissent par les affaires, Patrick Balkany, c'est un homme politique finalement assez classique, hein, qui appartient à la droite des années 80-90, dans un département particulier qui est les Hauts-de-Seine. Il fait partie de la génération Pasqua, avec Nicolas Sarkozy, avec Patrick Devedjian, avec Brice Hortefeux, avec Ségaldi Reynaud, Kossowski, etc. C'est Balkany, c'est un homme politique qui a mené une politique à Levallois. Qui a fait sa politique et tout. Il faut reconnaître qu'il a suffisamment bien fait pour rester au pouvoir suffisamment longtemps. Il a très bien géré son business, hein. Avec cynisme. Pour le coup, je dis ça avec cynisme, mais voilà. Et je ne remets pas en cause la sincérité de Patrick Balkany, qui pense sincèrement qu'avoir le moins de logements sociaux dans sa ville, c'est le mieux. Personnel, je suis pas tout à fait d'accord, mais quand il le dit, il en est convaincu, hein. Sincèrement. Eh ben, écoute. C'est bon. Est-ce qu'on peut parler de bonne politique de la part de Balkany, sachant qu'il a endetté sa ville sur 40 ans pour se faire réélire? Bah, il a aussi attiré un nombre de capitaux incroyables, l'installation de beaucoup de grandes entreprises, de sièges de boîtes et tout, et pendant des années avec la taxe d'habitation, t'inquiète, ça rentrait dans les caisses, hein. Mais l'endettement, bien pareil, l'endettement, c'est un point de vue. Discutons-en de l'endettement. Pareil, j'ai grandi à une époque où on m'expliquait matin, midi et soir que la dette publique, c'était toujours un problème par principe et par nature. Bon, puis finalement, j'ai entendu d'autres économistes qui m'ont dit, bah, on peut en discuter, hein. La dette, il y a plusieurs dettes possibles, il y a plusieurs raisons de s'endetter, il y a plusieurs manières de s'endetter, et il y a plusieurs perspectives et tout, donc on peut aussi relativiser la dette, hein, ça dépend de laquelle, ça dépend comment et tout. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Je sais plus ce que je disais avant Levallois. Ouais, je parlais de postuler la sincérité. C'est ma manière à moi de voir les choses et je comprends aussi qu'on puisse avoir un point de vue différent, une approche différente de la chose publique et de la chose politique, où on puisse considérer que tout politique, par nature, dès lors qu'il fait de la politique, est un être de cynisme, de calcul et de stratégie. Pour se placer au mieux et obtenir des postes. Je comprends. Je le partage pas, mais je le comprends. On parle quasiment plus de dette et déficit dans le débat public, assez consternant. Bah, tu m'accorderas que la notion de dette a évolué depuis le Covid. Je veux dire, à partir du moment où on a fait sauter les règles de discipline budgétaire en Europe, qu'on a dit banco, allez-y, endettez-vous un max, à partir de ce jour-là, c'est vrai que. C'était moins un sujet, quoi. Ça veut pas dire que ça va pas le redevenir, hein. J'ai une question institutionnelle. Quelle est la justification de l'immunité parlementaire protéger le législatif de l'exécutif? Non, du judiciaire. Et de l'exécutif aussi, qui a la main sur les enquêtes, etc. C'est trop facile d'écarter un politique gênant, un opposant politique. En lui collant des enquêtes au cul. L'un des arguments massus pour la réforme des retraites, c'est la réduction des déficits. Ouais. Et l'un des arguments massus contre la réforme des retraites, c'est de dire que les déficits sont pas graves en soi. Tu vois? Intéressant. Donc en fonction de la manière que vous avez de lire le mode de financement de notre système de retraite, vous pouvez considérer que notre système de retraite est viable en l'état et peut continuer comme ça, et vous pouvez aussi considérer que c'est intenable. Les deux sont défendables. Comme on dit en droit, ça se plaide. C'est ni vrai ni faux, ça se plaide. Ça se lève comment une immunité parlementaire française et européenne? Dans les deux cas, c'est une décision des instances du Parlement. Le bureau du Parlement peut lever l'immunité parlementaire d'un député. Comme on dit dans le gaming, ça joue. Ouais, bah ça débat. On peut chercher à régler les déficits en taxant ailleurs que sur le système de retraite. Les systèmes de retraite ne sont pas taxés, hein, je te le rassure. Au contraire, ils sont plutôt abondés massivement par l'État. Et pareil, sujet. Mais on verra ça demain dans la présentation du système de réforme de retraite, de la réforme des retraites. Notre système de retraite aujourd'hui fonctionne en l'État. Alors attention, parce qu'il y a des chiffres très bons sur l'année 2022, mais enfin bon, il y a des rattrapages de croissance post-Covid qui expliquent beaucoup de choses. Mais il existe avec un taux de contribution du PIB à notre système de retraite qui est ce qu'il est. On peut en discuter. On peut vouloir le réduire ou l'augmenter. Il est à l'équilibre avec une participation de l'État, que l'on peut voir comme bienvenue ou comme une tutelle, une béquille qui n'a pas vocation à durer. On peut voir, on peut en discuter. Je suis une bille en économie et j'ai pas beaucoup mieux et pas beaucoup mieux en politique, mais j'ai jamais compris en quoi le déficit c'est si grave pour un État. Tant que t'es pas en cessation de paiement, on s'en fout. Je vais essayer de prendre un exemple qui vaut ce qui vaut, mais je vois pas en quoi la cigarette c'est un problème. Tant que t'as pas de cancer du poumon, on s'en fout, non? Voilà, tu vois un peu le tu vois un peu le problème? C'est-à-dire que bah le déficit, ce qui te pend au nez à force d'avoir du déficit, c'est la cessation de paiement. Donc tu peux voir ça comme un problème ou pas, mais peu importe qu'on mette une ceinture dans la bagnole, tant qu'on n'a pas d'accident, on s'en fout. Ouais. Oui. Tant qu'on n'a pas d'accident, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que dans le cas du déficit, certains économistes diraient que la cigarette cause pas le cancer. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est plus compliqué. J'ai fait exprès de vulgariser en simplifiant, en faisant un parallèle douteux avec la cigarette, mais pour faire comprendre qu'effectivement, on peut en discuter, je suis d'accord avec toi. Mais l'endettement, c'est pas neutre non plus, on peut en discuter. Avoir besoin d'emprunter de l'argent tous les jours pour financer son fonctionnement, ça te rend dépendant des gens qui te prêtent de l'argent. On peut considérer que c'est pas très grave, on peut aussi considérer que c'est un peu emmerdant quand même. Légaliser la weed et reverser les profits dans le système de retraite est une solution aussi. Ouais. Je suis pas persuadé que les bénéfices issus du marché du cannabis soient suffisants pour financer notre système de retraite. Il va falloir beaucoup fumer. Pour ça, en termes de masse, de pognon, je parle pas du chiffre d'affaires, je parle bien du bénéfice. Hein. À considérer qu'on impose le bénéfice à 100%, je veux dire, l'imposition du bénéfice en France, c'est combien? Je ferai mon effort patriotique. Ouais, c'est 25, 28. Ouais, c'est ça, c'est 25%, c'est un quart. Bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui fument, je te l'accorde. Mais bon, si tu taxes les bénéfices de la vente de cannabis à la même hauteur que le reste des entreprises, donc à 25%, est-ce que tu as suffisamment de pognon? Bon. Après, c'est un choix philosophique, hein. Et encore une fois, c'est un choix. Discutons des choix en politique. Faut-il faire reposer le financement d'un système de solidarité sur la contribution de l'État? Et si oui ou non, à quelle marge, à quelle mesure? Discutons-en. Il y a beaucoup d'arguments qui plaideraient en faveur que notre système de solidarité soit indépendant de l'État. En disant non. L'État doit se gérer autre chose. C'est les travailleurs qui doivent financer. Enfin, c'est pas les tra que les tra attention, c'est pas que les travailleurs. C'est les travailleurs et les entreprises. Attention, j'oublie pas celle-là. Qui doivent concourir solidairement au financement des caisses de solidarité pour les travailleurs. Ça se plaide complètement. Je l'entends complètement. Les recettes de l'État sur le tabac, c'est combien pour comparer du coup? C'est de mémoire, l'État gagne 11 milliards d'euros par an de taxes sur le tabac. Du coup, mutualiser plus que syndiquer ou redistribuer. C'est trois mots complètement différents, je ne vais pas pouvoir te répondre. L'État perd combien dans les maladies des fumeurs? Alors, il n'y a pas que l'État, justement, il y a aussi les caisses. C'est pour ça que c'est compliqué comme calcul. On estime à peu près, si mes chiffres datent un peu, hein, ils datent de 2014, à l'époque, on estimait aux alentours de 18 milliards d'euros le coût du tabac pour le système de santé. Et il y a d'autres calculs qui ont été faits, mais alors qui sont à prendre avec des pincettes, qui essayent de calculer le coût social du tabac. C'est compliqué parce que on essaye de faire des extrapolations et des calculs sur combien nous coûte le fait que les gens meurent prématurément et que donc par conséquent ils ne cotisent plus, ils ne payent plus d'impôts, ils ne participent plus à faire tourner l'économie. Donc c'est un peu compliqué et ça pouvait monter jusqu'à 40 milliards, 40-50 milliards de mémoire. Il y avait des chiffres comme ça qui étaient brandis par les associations anti-tabac. Voilà. Dans les deux cas, quoi qu'on prenne comme chiffre, peu importe, les gens qui vous disent que l'État se gave avec le tabac et que donc l'État n'a pas intérêt à limiter la consommation de tabac, c'est faux, c'est factuellement faux. À considérer que l'État serait un acteur cynique qui ne pense qu'au pognon, ce dont on peut discuter, c'est un très mauvais calcul. Voilà, donc non, 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 l'État ne gagne pas d'argent avec le tabac et il en perd beaucoup, beaucoup, beaucoup. Idem avec la sécurité routière. Ouais, mais enfin là, il n'y a pas de taxe. L'État taxe personne sur les ceintures de sécurité, tu vois. Alors qu'il suffirait de taxer les riches. Oui. Et slash ou de réduire notre consommation de tabac. Les radars? Ah oui, les radars, ah oui, ça pareil, ça les radars, ça rapporte que dalle. Ça pareil, il faut se retirer ça de la tête. Non, l'État ne gagne pas d'argent avec nos excès de vitesse, il en perd énormément. Dans la gestion de tous ces morts, de tous ces. Faut financer les pompiers, le SAMU, les hélicoptères qui viennent chercher nos cadavres sur la route et tout. Oh là, ça coûte un fric. Oh là là! Changer les infrastructures routières, les panneaux et tout. Oh là 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 là. Les jeux d'argent, ça rapporte ça? Bonne question. T'avais pas une revue de presse de prévu? Si, mais on va devoir l'annuler. Du coup, on est parti dans une conversation. Je suis désolé, hein, j'ai très envie de discuter avec vous. Désolé, hein, c'était une revue de presse. C'était une non-revue de presse. J'espère que vous êtes content de cette non-lecture d'article. Mais je vais devoir partir dans 10 minutes. La FDJ, c'est privé. Alors, la Française des Jeux a été privatisée, mais pour autant, il y a quand même des taxes, hein. Il y a quand même des taxes sur les jeux d'argent. Tu non lis tellement bien. Tu connais ou t'as déjà entendu parler de Datagueule? Bah ouais, j'ai dit du bien tout à l'heure d'Henri Poulain. Henri Poulain qui a réalisé l'émission avec Macron et Papotin. J'aime beaucoup Henri Poulain. J'aime beaucoup la team Datagueule, je les connais depuis des années. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, bah depuis le Covid. Hein. Oh là là, le Covid nous a éloignés. Mais j'aime beaucoup les copains de Datagueule, hein. J'aime bien ce qu'ils font. Là, ils sortent une série sur les utopies bientôt. Trop bien. L'État, c'est un peu notre argent à nous de base. Bah oui. Justement. Ouais, l'État, c'est nous. Je me souviens quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, non, quand j'étais ado, j'étais au lycée, et j'étais dans un lycée chelou dans lequel il y avait beaucoup de gosses de riches. Alors moi, j'étais déjà dans ma période gauche. Camarade, gauche vénère, mais il y avait beaucoup de gosses de riches et tout. Et en histoire géo, on avait une prof. Maintenant, avec le recul, je suis sûr qu'elle était syndiquée et de gauche. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. On avait une prof qui était vachement bien, qui était une super prof d'histoire et de géographie. J'avais fait un exposé sur la Sicile au XIIIe siècle, carrefour des civilisations de l'islam et de la chrétienté. C'était trop bien. Bref, je ferme la parenthèse, mais on avait une discussion à un moment en classe sur les impôts, etc. Et je me souviens que dans ma classe, il y avait des gosses de riches, faut pas leur en vouloir. Ils recrachaient le discours de leurs parents, de leur papa, etc. Sur ouais, mais l'État nous prend. L'État nous prend. L'État prend de l'argent, etc. Et ils s'en plaignaient, enfin, ils expliquaient que c'était. Et je me souviens de ma prof qui s'arrachait les cheveux à essayer de leur expliquer, mais l'État, c'est nous. Et je me souviens, je sais pas, j'ai un espèce de flash de mémoire de la prof en train de dire pour la 20e fois, mais l'État, c'est nous tous. C'est pas qu'on te prend l'argent, l'État est pas un acteur extérieur qui en veut à ton pognon et à toi pour t'emmerder. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est. Et donc elle essayait d'expliquer, on était au lycée. Merci France Info. Merci les bros de France Info, des bisous. Des bisous à vous, j'espère que ça roule. Donc voilà, je me souviens de cette prof qui essayait voilà, qui essayait de se battre en argumentation pour leur dire, mais arrêtez de voir l'État comme un bandit ou comme, je sais pas, une espèce de mafia. Non, l'État, c'est nous tous. Et voilà, je me souviens de cette prof qui disait, mais l'État, c'est nous. Voilà, et c'est. Bon courage aux profs, hein. Je repense à ces moments de discussion en cours avec des profs, avec le recul, putain, le courage qu'ils ont et la force de caractère qu'il faut pour expliquer à des ados. Des concepts qui aujourd'hui me paraissent simples, mais évidemment, je suis beaucoup plus vieux, mais comme la redistribution, comme l'intérêt général et tout. Voilà. Courage à vous, les profs, hein. Je sais que ça doit pas être facile. Débat compliqué chez France Info avec Thierry Coste pour parler de chasse. On veut pas du courage pour les. À nous, les profs, on veut des meilleures conditions et plus de sous. Alors, tu m'excuseras de ne pas avoir les moyens de t'apporter ça. Tout ce que j'ai à te dire, c'est un salut fraternel et amical et tous mes voeux de bonheur, de courage et de réussite. Manon et France Info ont fait un raid. Mais je sais, je les ai cordialement remerciés. Il a pas l'air convaincu d'en être Thierry Coste. Ah non, 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 je m'en fous. Enfin, voilà. Manon, elle vient de gérer un débat chaud. Mais parce qu'elle est très forte, Manon. Pourquoi Jean ne peut pas augmenter le salaire des profs? Parce que j'ai pas le pouvoir. Ça tombe bien, je le demande pas. Eh. Sirikos, c'est Willy Schren et Goebbels mixés dans une poubelle, c'était pas très joli. Ou alors, si tu peux éviter de comparer les gens avec qui t'es en désaccord à Goebbels, c'est mieux. T'as pas une petite fortune cachée? Si, mais enfin, faudrait que j'aie le compte en banque de tous les profs. Les mecs sont 1 million, t'es gentil, t'as vu la gueule du tableur Excel à la fin? Bon, envoyez-moi votre RIB. Sort les milliards pour les profs. Je vais vous montrer la proc de la semaine. Elle est où ma proc de la semaine? Attendez, bougez pas, quittez pas. Quittez pas, ce stream est réalisé par un professionnel. Cette semaine, j'espère que vous allez être content de la prog, hein, parce qu'on a une prog exceptionnelle cette semaine. Ah putain, c'est toujours pas le bon, merde. Attendez. À chaque fois, je dois rechanger l'écran. Oh! Merde! Bonjour, abonnez-vous. Alors, donc ça c'était la revue de presse aujourd'hui. J'espère que vous avez été content de cette émission. Demain, alors demain ça va être chargé comme journée, je vous le dis tout de suite. Demain matin, à 9h du mat, ou 9h30, je sais plus, je suis convoqué au poste dans l'émission de David Dufresne. Pour ceux qui ne connaissent pas David Dufresne est un journaliste spécialisé des questions de police et de justice. Depuis très longtemps, David Dufresne, qui travaille avec Blast, qui a travaillé avec Libé pendant des années, enfin bref, Mediapart aussi, je crois un peu. David Dufresne, qui est sur Twitch et qui a une émission qui s'appelle Au Poste, justement. Il aborde notamment les questions de sécurité, de police, de justice. Et il m'a convoqué au poste demain, donc je serai dans son émission à 9h du matin. Je vous referai un tweet d'annonce, voilà. Donc je suis content. Ensuite, l'après-midi à 14h, on a la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qu'on va suivre ensemble. Ça promet d'être chaud. Et ça promet d'être chaud pour une très bonne raison, c'est que dans la foulée de la séance des questions au gouvernement, une demi-heure après, donc je me suis trompé dans l'horaire, c'est pas 19h, il y a une conférence de presse à 17h30 d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui va présenter la réforme des retraites. Donc on va enfin savoir sur quel pied danser en matière de retraite. C'est le top départ du marathon législatif sur la réforme des retraites. Donc on saura le véhicule, etc., les modalités. Bon, il y a déjà pas mal de journalistes qui ont sorti des articles, mais voilà. Donc demain, grosse journée. Je vais être éclataxe à la fin de la journée, mais ça va être cool. Mercredi. À 15h, je fais une FAQ politique ou une revue d'actu. On verra, ça dépendra de mon mood, ça dépendra de mon niveau de fatigue. Je vous le dis tout de suite, il est possible que le stream de mercredi saute. Ça va dépendre vraiment de mon état de fatigue, grosse semaine et tout. Voilà. Mais je vais quand même essayer de maintenir le truc. Jeudi. Le matin, on a la niche parlementaire du Rassemblement national. Comme d'habitude, on va faire le début de la séance publique. On va regarder les discussions générales sur quelques propositions de loi. Je ne sais pas dans quel ordre est-ce que le RN a l'intention de discuter ces différentes propositions de loi. On verra. Mais on va streamer ça. On va regarder les échanges entre les députés sur ce sujet. Et le soir, backseat, dans une émission spéciale, c'est la pré-première, comme on l'appelle. C'est quoi une niche parlementaire? Une niche parlementaire, c'est une journée réservée à un groupe minoritaire de l'Assemblée, au cours de laquelle ce groupe peut proposer ses propositions de loi en séance publique, en discussion générale. Donc on verra. On verra de quoi comment le RN présente ses lois, etc. machin. Et donc le soir, je vous disais à 19h, backseat, ce sera une émission spéciale pré-rentrée. Avant la reprise, la vraie première émission sera le jeudi suivant. Mais là, on avait envie de vous retrouver. On va faire une émission un peu intimiste entre nous, avec les chroniqueurs, les chroniqueuses. Ça va être la rentrée. On va parler de plein de trucs. On va parler d'actualité politique. Mais a priori, on n'aura pas d'invité politique ou de. Voilà, on sera entre nous. On va aborder plein de trucs. On va vous présenter aussi quelques nouveautés sur Backseat. Voilà. En public, non, justement, ce ne sera pas en public. Ce ne sera pas en public, cette émission-là. Justement, c'est un peu plus intimiste et tout. La vraie première sur le nouveau plateau et tout avec le public, ce sera le jeudi suivant. Mais on est quand même très content de vous présenter cette première émission. Et on a vraiment hâte de vous retrouver. J'ai hâte de retrouver tout le monde, Baxit, tout ça, tout ça. Donc, suivez les réseaux sociaux pour en savoir plus. Il y aura des gens bien dans ce Baxit, ouais. Donc voilà, donc soyez là, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et vendredi, l'hebdo Étienne, j'ai le plaisir d'être invité à nouveau dans l'émission de Samuel Étienne, l'hebdo Étienne, vendredi à 20h. Voilà, c'est cool! Non, c'est pas un leak parce que Samuel en a déjà parlé sur son stream. J'ai demandé l'autorisation à Samuel avant de l'écrire dans ma prog. Et on m'a dit, t'inquiète. Il a déjà leak, il l'a annoncé ce matin, donc tranquille. Donc voilà. Et chez Dave Duff, oui, mais Dave Duff, c'est mardi matin, c'est demain matin à 9h. Mais on s'est mis d'accord après que j'ai publié, voilà, je ne l'ai pas mis à jour. Donc ça va être cool. David Dufresne, mardi matin, séance des QAG, présentation de la réforme des retraites, niche parlementaire RN, Baxit, l'hebdo Étienne. Eh, hey, vous êtes gâtés cette semaine. Franchement, est-ce que ça mériterait pas un petit sub, ça dit donc? En utilisant par exemple Amazon Prime, cette fonctionnalité qui vous permet de vous abonner gratuitement à ma chaîne en faisant payer Jeff Bezos. Faites-le raquer. Demain, on passe toute la journée avec toi. Ah, demain, putain. Demain, ça va être 9h-11h, puis 14h, 19h. Merci, Nocep 3. Bonne sieste à toi samedi matin. Je suis pas sûr, je crois que j'ai un truc. Abonnement gratuit si on paye. Oui, c'est gratuit si vous payez. Mais l'abonnement Amazon Prime, il n'est pas obligatoire? Y a pas un truc comme quoi tous les citoyens des pays développés sont obligés de s'abonner à Amazon Prime et on a un système de notation et de classement et si on n'est pas enregistré, on n'a pas le droit aux prestations sociales. Ça va arriver un jour. Hein. Alors je l'ai pas lu, mais je crois que c'est le dernier roman de Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction français, qui a publié un bouquin qui s'appelle Les Furtifs, dans lequel il imagine une dystopie future dans laquelle tout est privatisé et les grandes entreprises ont acheté des villes entières. Donc les entreprises ont acheté des villes entières, donc les villes n'ont plus leur nom d'avant, il y a des villes qui s'appellent Carrefour, des villes qui s'appellent Apple et tout. Et c'est un espèce de Black Mirror, ouais. Et de ce qu'on m'a expliqué du pitch du bouquin, toutes les villes sont privatisées, c'est comme ça, et c'est la société qui fonctionne comme ça. Il y a Orange, ouais. Paris qui a été racheté par LVMH, machin. Et tous les citoyens sont enregistrés et ils ont un statut de citoyen qui dépend de leur note. Alors, je sais pas si c'est une note sociale ou une efficacité économique. Je sais pas comment c'est calculé. Non, justement, je crois que c'est des abonnements, ils payent. Et donc, tu as les citoyens premium, les citoyens éco, les citoyens machin. Et en fonction de ton statut citoyen, tu as plus ou moins accès à différents endroits. Il y a des squares qui sont ouverts que aux citoyens premium de telle heure à telle heure. Il y a des quartiers entiers qui sont réservés. Il y a des espèces de trucs comme ça. Et donc voilà, j'ai pas lu le livre, mais on m'avait parlé de ce bouquin en me disant voilà, c'est ce genre de société dans lequel tout le monde a un statut qui dépend de plein de trucs. Et voilà, donc le livre s'appelle Les Furtifs. Et je crois que ça s'appelle Les Furtifs parce que justement, il y a certaines personnes qui ne sont enregistrées nulle part et qui sont donc des furtifs. Des gens qui sont sur aucun réseau social, qui n'ont pas de téléphone, qui sont pas connectés à cette société. Et voilà, qui s'appellent les furtifs. Donc j'ai pas lu le livre, mais il se passe plein de trucs, machin. Donc voilà, je sais pas, ça me fait penser à ça. Donc voilà, tout ça pour dire que l'abonnement à Amazon Prime est obligatoire. C'est Jeff Bezos qui m'a dit de vous le dire. Et qu'une fois que vous êtes abonné à Amazon Prime, vous ou un proche de votre famille, vous pouvez, si vous n'êtes pas abonné à Amazon Prime, mais que votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre voisin, votre pote est abonné à Amazon Prime, vous pouvez utiliser son compte pour vous connecter à Twitch avec son compte et vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à ma chaîne. C'est-à-dire que ça ne coûtera pas plus cher à votre pote ou à votre frère ou à votre père, ou votre maman ou votre sœur. Mais moi, ça me rapportera quand même. C'est incroyable. J'ai envie de dire, tout le monde est content. Envoie ton RIB, je te file des sous si tu veux. Mais pas, mais m'oblige pas à payer Jeff. Alors, si vous voulez pas donner de l'argent à Jeff, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi donner sur le Utip de l'émission Backseat pour participer à son financement. Et là, ça passe pas du tout par Amazon. Est-ce qu'on serait pas tous un peu contents? T'es lourd, je vais encore devoir t'envoyer des sous. On a les chroniqueurs sur Insta. Ah, ça y est, c'est chronique, ça y est, c'est annoncé. Boum! Voilà le line-up de l'émission Backseat de ce jeudi avec Usul, Sacha, Léa et des surprises. On sait pas, je sais pas, je vous dis rien, vous verrez bien. Moi je sais pas, c'est pas moi qui fais. Full gauchiste? Ah, je le dirai à Sacha, elle sera contente. Voilà. Et les invités, c'est quand? Ce sera à partir de la semaine prochaine. Est-ce que c'est François Mitterrand la surprise? Ah, tu risques d'être déçu. Y a plusieurs surprises. Non. Par contre, il y aura un spectacle de jonglage fait par Mr. Fox. Voilà, il a accepté de le faire bénévolement en échange de visibilité. Mr. Fox voilà, viendra faire. Alors, il m'a dit jonglage, quille, cerceau, montreur d'ours. J'ai rien compris à son mail. Il m'a encore envoyé un pavé. Enfin, il m'a envoyé une vidéo et tout. Enfin, bref, vous verrez. Cracheur de feu. Voilà, évidemment c'est faux. Hein. Il y a toujours la team premier degré qui dit attends mais comment ça des montreurs d'ours? Mais attends mais je vais prévenir la SPA. Calmez-vous. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. Les bolasses bien sûr, toi-même tu sais. Ah, on a tous eu 14 ans. Merci Tégréhuge pour les 5 subs offerts au chat.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Chez qui ça parle, Red? Chez qui ça parle, Red? Attendez, je regarde. Oh, mais il n'y a que des belles personnes, putain. Eh, on n'irait pas chez Wingo. Allez, go Wingo. Go Wingo, j'ai envie de dire. Allez, hop. Raid chez Wingobert. Wingobert qui joue à Trackmania. Wingobert qui fait partie des 4 chaînes que j'ai le plus regardées en 2022. J'ai passé des heures sur son stream en une demi-heure. J'adore son stream. Voilà, c'est du Trackmania, c'est les petites voitures qui roulent. Il faut aller le plus vite possible à la fin. Il est en train d'essayer de faire les meilleurs temps possibles sur la nouvelle campagne. Passez un bon, une bonne suite de streams en compagnie de Wingo. Amusez-vous bien. Vive Kaki, évidemment. Poule! Vous comprendrez. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Je vous embrasse sur la fesse droite. Et on se retrouve demain matin à 9h du matin sur la chaîne de David Dufresne. Des bisous, à demain. Ciao.